Flore Square, sous la Commune. Je l'avais rencontré quelques mois avant la guerre, dans cet hôtel de l'avenue de Friedland, où Arsène Housset donnait alors de si merveilleuses fêtes vénitiennes. C'était par une nuit de bal, au fond du salon mauresque, près du large divan qu'elle emplissait de ses jupes. Sous son loup de soie noire, j'avais deviné jolie l'indéfinissable ondulation des lignes révélait un corps jeune, souple, mince, créé pour les profondes caresses et pour les abandons paresseux. Aucun de ces mouvements ne se dessinait en gestes banals. Depuis sa nuque aux teintes fauves, qui supportait un chignon de raie traverse d'une longue épingle d'écailles blondes, jusqu'à ses petits pieds impatients et mutinés, cambrés sous les ailes mules noires, on pressentait la ligne nerveuse, chaste, presque divine, où l'artiste admire religieusement le témoignage des pures beautés antiques. Elle portait une toilette de coupe unique, un de ces fourreaux de satin plaqués aux hanches que devaient adopter plus tard les élégantes de la Troisième République et qui, à cette époque de luxe hypocrite, pouvait passer pour une rare audace de coquetterie féminine. Pas un ruban, pas une dentelle, pas un bijou. L'étoffe adhérait fidèlement à la forme amoureuse et vers les genoux se perdait en trames flottantes égayées par des clartés de jupons blancs. Un voile de point vénitien comprimait ses torsades blondes d'or, s'élevait un patin parfum régulier, timide et capiteux, qu'on eût dit blond aussi. Sa main droite, gantée de chevreau, couleur de deuil, balançait dans un mouvement rythmique, mesuré sur les lointains échos de valse, un large éventail de jeunes mets dont chacun des deux branches maîtresse portait un diamant noir. Nul ne lui parlait, elle semblait comme étrangère à cette foule joyeuse qui se reposait de l'étiquette guindée de la grande vie mondaine dans le tapage à la fois canaille et raffiné. Ses grands yeux bizarres, verts et enivrants, comme de vivantes absinthes, contemplaient froidement la cohue des gentilshommes, des amas sénateurs et des officiers chamarrés qui se suivaient lentement sous les lustres. Du divan où elle était étendue, blottie pour ainsi dire, dans une attitude frileuse de chatte, elle considérait à loisir tout le cortège de fêtes, l'escalier de marbre, éclairé d'orchestres odorantes, la loggia, dont les classes abritaient des palmiers et des lauriers roses, la haute galerie sombre, que les tapisseries flamandes faisaient solennelles, le petit boudoir japonais, riant de lumière papillotante, avec ses panneaux de laque transparentes, ses lanternes folles, ses draperies de soie où galopaient des chimères fabuleuses à travers des paysages d'or, de pourpre et d'azur, parmi les fleurs bizarres et de soleils éblouissants. Vers l'heure où les valets de pied dressaient dans le hall les petites tables du souper, elle se leva, traversa le salon mauresque, descendit l'escalier majestueux, en tenant le centre des degrés roses, et disparut. Le lendemain, au bois, je la reconnus tout de suite. Il m'était bien inutile d'avoir vu son visage. Elle trahissait, elle se trahissait aussitôt par la grâce gris, féline, qui lui était propre, et que je n'ai jamais pu retrouver chez aucune autre femme. Celle que je suivais, sous les acacias près du pavillon de Madrid, ne pouvait être qu'elle. C'était la même démarche, lente et onctueuse, la même coupe et la même couleur de costume, les mêmes yeux, pareils à de cantapages liquides. Et dans le balancement de sa taille souple, dans le mouvement arrondi des bras et l'inclinaison du cou, je la ressaisissais tout entière, avec son charme noir, ses indolences mystérieuses de la nuit. Je suis bientôt son nom, sa demeure, et qu'elle vivait seule dans une villa d'Auteuil. Mais je ne connus que cela. Je ne pus apprendre, et je ne sus jamais si elle était fille, femme ou veuve. Je lui écrivis en vain. Bientôt, elle déserta le bois, tint ses volets fermés à l'heure où je passais à cheval sous ses fenêtres. L'aimais-je? Ben, je n'oserais le dire ni le nier. Elle me préoccupait, voilà tout. Aucun effort ne m'a écouté pour me rapprocher d'elle. Mais je ne souffrais pas de ma solitude. Ce petit roman tranquille, doux, mélancolique, ajoutait à ma bonne humeur naturelle je ne sais quoi de tendre, de caressant, qui ressemblait parfois à du bonheur. Puis je trouvais ça gentil de pouvoir aimer encore un collégien, intimement, bêtement, simplement, sans arrière-pensée, sans un désir. Ben alors, je crois bien tout de même l'avoir aimé. Vint la guerre, il fallut se faire soldat, comme tout le monde. Le maréchal Lebeuf m'expédia à Limoges, je n'ai jamais su pourquoi. Le duc de Palcao m'envoya à La Roche-sur-Yon. Le général Leto me rappela enfin à Paris et me rendit mes 3 galons de capitaine en me versant dans un escadron de formation nouvelle. Et le 2 décembre, comme je traversais un grand trot le plateau du Tremblay, une balle allemande m'atteignit en pleine poitrine et me jeta évanoui dans la poussière. Je me réveillais seulement le lendemain à l'ambulance de Valentino. Une longue salle garnie de petits lits blancs où reposaient d'autres vaincus, des médecins en tenue militaire avec le brassard à la Croix-Rouge, des femmes en robe noire protégées par un grand tablier blanc, ambulancières volontaires. Je distinguais tout cela confusément, ces femmes graves, ces blessés pâles, ces uniformes. Et bientôt, je ne vis plus qu'elle, la dame d'Auteuil, debout près de ma couchette et regardant de son habituel regard fixe et profond. C'était elle. Oh, j'avais déjà oublié la guerre, les fatigues, les périls, les colères. 1 an de passé se remplit de lumière. C'était le salon mauresque de l'avenue de Friedland, les ailes solitaires du bois, les jardins d'Auteuil, mon cher petit roman de l'été. Et comme j'allais parler, elle se leva, un doigt vers ses lèvres en ligne, signe de silence, et derrière sa main blanche, je contemplais son premier sourire, un sourire discret, triste, à peine dessiné, comme le sourire de la Joconde. C'est ainsi que pendant 3 mois, je pus lui faire ma cour. Oh, une cour respectueuse, timide, timide. Il est quelquefois précieux d'avoir reçu un coup de feu dans la poitrine. Lorsque je sortis de l'ambulance, nous étions au début de la commune. Dès l'écluse, entrait à l'hôtel de ville, Grousset s'installait dans le cabinet de Jules Fabre. Une tragédie commençait. Mais le soleil était revenu. Il y avait des bourgeons aux marronniers des Tuileries. Des milliers de passereaux rentraient. Et puis nous retrouvions ce merveilleux pain blanc qui ne fut jamais plus blanc qu'au lendemain du siège. Et sous les chênes de l'ancien parc impérial, je rencontrais maintenant presque chaque jour la dame en noir. Pas bavarde, la dame. en dépit de mes questions, il n'apprend rien de sa vie. Rien, rien, rien. J'observais seulement ses allures prudentes, sa hâte à me fuir dès qu'un promeneur se montrait à l'entrée de l'allée, alors déserte souvent. On eût dit qu'une surveillance pesait sur elle et commandait sa vie. Elle avait dû abandonner sa villa d'Auteuil, visitée par les obus parisiens, prussiens. Elle s'était déjà retirée provisoirement dans un appartement de la rue d'Alger, où elle ne consentit jamais à me recevoir, malgré mes instants de prière. Cependant, elle s'attendrissait peu à peu. Et le soir, vers la quatrième heure, au moment voilé de demi-teinte, où le regret du couchant laisse un adieu plus doux, nous avions une longue étreinte silencieuse. C'était toujours au tournant du dernier massif, dans la verdure devenue sombre, près de la fontaine de Baille. Je prenais ses deux mains gantées dans mes mains tremblantes. Je lui disais « à demain, tout bas ». Et nous demeurions ainsi, face à face, sans une parole, en écoutant vaguement le canon qui grondait au loin vers le Mont Valérien, vers Vanves et vers Beson. Mais qu'était donc cette femme ? D'où venait-elle ? Pourquoi s'attardait-elle en ce pauvre Paris alors déserté ? Et si elle vivait solitaire, pourquoi ne point me permettre de lui faire visite ? Et je le lui demandais un soir. « Vous avez donc peur de moi ?» lui dis-je. « Peur, moi ?» Puis elle se leva, me quittant en prononçant avec un accent étrange. « Vous verrez si j'ai peur. » Le soir, comme je rentrais après dîner, un laquais me remit ce billet. « Demain, 2 heures, à ma maison d'Auteuil, elle. »« Auteuil ?» Bon, c'était par ironie, assurément, ou peut-être pour m'éloigner, qui sait. Depuis une semaine, les batteries du Mont Valérien foudroyaient Auteuil. Les fédérés, chassés par les obus, avaient abandonné le secteur et s'étaient retranchés derrière des barricades. La veille même, Dobrovski avait été blessé, là, en passant la revue des postes. Les troupes de ligne avançaient lentement vers le rempart, dans les tranchées serpentines. Le quartier avait été abandonné complètement dès les premiers jours de la guerre civile. Dans ces conditions, aller à Auteuil était une folie. Je fus à Auteuil, malgré les barricades du Quai Billy et la mitraille qui balayait le point du jour. Je rasais les murs, cherchant la protection des angles, hâtant le pas, contemplé avec stupeur par les fédérés des barricades qui crurent devoir envoyer 2 ou 3 coups de feu inutiles. Enfin, j'arrivai rue Boileau, devant la villa. Pauvre villa! La grille s'était abattue, tendue sous l'action victorieuse des boulets. Des personnes en lambeaux. Ces persiennes pendaient aux fenêtres. Une brèche énorme ouvrait le toit, laissant voir un trottoir béant. Un gazon maigre poussait dans les pavés de l'allée carrossable. Le jardin était dévasté. Je vois encore une branche de lilas décapitée par une balle et que le vent balais se lançait. Ayant gravi le perron dont un obus avait beaucoup basculé les dalles, je poussai la première porte voisine des marches et j'entrai dans un petit salon clair. La dame en noir m'attendait, blottie en un fauteuil, avec toujours sa même allure troublante. Et comme je tombais à ses pieds, une boîte à mitraille creva sur la pelouse et le ricochet d'un bistaïen vint expirer sur le tapis. Ai-je peur? Dit-elle. Et je vis refleurir son premier sourire, son sourire de l'ambulance. J'osais lui dire son nom. Oh, je ne l'écrirai point. Et ressaisir ses mains aimées. Ce que je lui dis en ces heures de bataille, dans cette tourmente affreuse où nous étions cachés, quelles paroles exquises, sublimes et passionnées tombèrent de ses lèvres, à quelle extase profonde, sans nom, nous apparurent sous ce toit fidèle et secoué par la guerre. Pourquoi le révéler? Le souvenir avoué s'évapore et laisse seulement au fond des cœurs un parfum vieilli, amer souvent. Je garde en moi, comme un avare, le témoignage toujours vivant de ces ivresses mortes. Elle se donna, plus tard de 1000 fois qu'on n'avait jamais été sévère. Le mystère où elle s'enfermait d'ordinaire semblait lui laisser trêve en ce soin perdu, plus désert que l'immense désert. Nul ne pouvait nous apercevoir ni nous rencontrer. Et quand nous nous rejoignions là, chaque jour, c'était après avoir traversé des solitudes et mornes, des rues vides, où son pas léger retentissait dans les repos sombres du canon. Aucun passant, pas un soldat. Le danger, oh, n'y pensions plus guère. Elle ne m'en parla jamais. Et bientôt apprivoisés, nous prîmes possession du jardin, du pauvre jardin, d'autant plus joli qu'il poussait à la grâce de Dieu. Que d'instants passés agenouillés dans l'herbe, sans entendre le sifflement des balles dans les branches. Enfin, combien cela est déjà loin. 15 années bientôt. Le 22 mai, au lendemain de l'entrée de troupes, elle m'écrivit. Il n'est plus un coin où nous puissions cacher notre amour. Adieu, mon ami, elle. Et je ne l'ai pas revue. Elle est retournée à son mystère.